Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Avant d'écouter votre podcast, nous avons quelque chose à vous dire. Chez Aldi, nous nous engageons à vous proposer chaque jour toujours plus de produits plus respectueux de l'environnement et des producteurs. Et ça, ça devrait vous plaire. Retrouvez nos engagements sur aldi.fr. Et maintenant, place à votre podcast.
Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici déjà vendredi et hop, une nouvelle semaine de bouclée. Si vous n'étiez pas toujours avec nous cette semaine, profitez donc de ce week-end pour rattraper votre retard. Toutes nos émissions sont en replay sur Radio Player France. Et mention spéciale pour celle de lundi sur les thérapies entre guillemets de conversion qui, en toute légalité, prétendent pouvoir détourner les personnes homosexuelles de leurs désirs. Les témoignages de Benoît et de Jean-Michel, victimes de ces pratiques, sont édifiants et laissent sans voix. Ça restera pour moi en tout cas une émission inoubliable. Nous sommes en direct, je vous le disais, jusqu'à 15h30 et dans un instant, vous allez entendre l'histoire d'Aton. Elle pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un film. Car si l'on veut retrouver sa jeunesse, il suffit d'en répéter les erreurs, selon Oscar Wilde. La jeunesse est le temps de la découverte, de l'expérimentation, du danger, mais aussi des faux pas. Et il en est des plus graves que d'autres. Alors avons-nous tous commis des erreurs de jeunesse? Sont-elles vraiment formatrices? Peuvent-elles avoir des répercussions sur le long terme et même changer le cours de notre vie? Aton, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Aton. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Vous avez aujourd'hui 42 ans. Vous êtes acteur, vous êtes auteur d'un livre chez Nimrod, Feral, cette force qui existe en nous. On va, si vous le voulez bien, regarder dans le rétroviseur quelques décennies en arrière. Quel genre d'adolescent étiez-vous ?
Ouh là là. Alors déjà, merci pour l'invitation. J'étais un adolescent... Assez sage, assez calme, mais très à fleur de peau parfois, oui. En ce qui concernait surtout tout ce qui concernait l'injustice, la violence gratuite, je ne supportais absolument pas, parce qu'en fait j'avais été victime de harcèlement quand j'étais beaucoup plus petit, et oui. Du coup je me suis mis au sport de combat, et ça a amené un adolescent un peu très réactif sur ce genre de choses.
Alors, vous étiez donc un jeune homme, vous l'avez dit, un adolescent donc harcelé physiquement. Vous étiez quel genre d'ado ?
Oh, j'étais pas très grand. J'avais déjà presque ma taille adulte, hein, 1m75. Je faisais à peu près dans les 65-70 kilos. Je pratique donc j'étais pas vraiment impressionnant. Hein. Il y en avait qui étaient beaucoup plus grands que moi, beaucoup plus épais que moi. Mais bon, j'avais des cheveux à l'époque, parce que là, ceux qui me connaissent savent que je suis rasé, que j'ai plus de cheveux depuis longtemps. J'en avais beaucoup, et puis ça suscitait un petit peu la moquerie.
Qu'est-ce qu'on vous disait?
Oh ben on se moquait, c'était des insultes, hein, mais il y avait de tout. Franchement, vous savez, je suis passé vraiment sur ces insultes-là, mais c'était la répétition, c'était très, j'étais stigmatisé tout le temps sur certaines choses et tout. Et parce que juste, on me trouvait bizarre. Voilà, en fait, c'était ça. J'étais différent. Atypique. Ouais. J'étais habillé un petit peu différemment des autres. Je portais souvent des pulls que ma grand-mère me tricotait. Vous voyez ces petites choses-là qui font un peu que, ben voilà, on va se moquer. J'avais des chaussures de randonnée pratiquement à l'année, des chaussures qui avaient été offertes par mon oncle, qui avaient été récupérées chez Emmaüs. Alors non pas qu'on était, quand j'étais en galère financière à mes parents, ça allait très bien, mais j'avais cette envie de porter ce que j'aimais, et ça dérangeait. Voilà, c'est la différence qui dérangeait.
Vous étiez un ado en colère.
Quelque part, oui. Ouais.
Vous sentiez la violence déjà en vous?
Ah, je sentais que, bah, disons que je pratiquais les sports de combat, et je sentais que il y avait pas besoin de gratter beaucoup pour que ça sorte, quoi. C'était en moi, mais c'était vraiment très tourné vers l'injustice et la violence gratuite. J'avais pas d'envie d'aller provoquer la violence, mais si elle croisait mon chemin, je réagissais.
Donc vous étiez sensible à des univers quand même, vous parlez des sports de combat, vous étiez sensible à un cinéma aussi qui reposait peut-être sur la violence, enfin vous sentiez que vous aviez ça en vous, en tout cas que vous aviez une puissance en vous.
Oui, complètement. Bah, quand je regardais des films, mon père m'emmenait au cinéma assez régulièrement, et c'est vrai que ce qui m'attirait à cette époque-là, c'était vraiment les justiciers, ceux qu'on n'embêtait pas, ceux qui étaient respectés, et c'était Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Vandamme, et qui réagissait, il répondait à la violence par la violence. Et c'est vrai que j'en avais fait un peu mon leitmotiv, et c'était comme ça, j'étais persuadé que c'était la bonne voie.
Dans votre univers familial, c'était pas particulièrement violent ?
Non, pas du tout, non, pas du tout. Mon père ne me poussait pas, absolument pas à la violence, mais disons que je pense qu'il il me mettait face à certaines choses qui suscitaient des réactions en moi et des réflexions, et ma mère n'était pas du tout à travailler dans une clinique, mais vraiment à l'opposé de ça, quoi, hein, vraiment. Hein.
Comment allait votre scolarité à l'époque ?
Je travaillais plutôt bien, j'étais un élève relativement sérieux, joyeux, déconneur, voilà, j'avais ma bande de copains avec qui je m'entendais très bien, j'adorais l'humour, enfin j'adore l'humour même encore maintenant, mais voilà, j'étais plutôt cool, quoi, plutôt jovial.
Mais harcelé quand même, et régulièrement moqué pour un look différent, des cheveux frisés, les pulls de votre mamie, et puis des paires de chaussures qui vous plaisaient et qui faisaient de vous, en tout cas, peut-être un jeune homme différent. Quand vous avez eu 17 ans, vous étiez au lycée. Vous étiez un élève, un lycéen intégré aussi, j'imagine.
Oui.
Voilà. Et là, vous avez fait une rencontre qui a quand même changé le cours des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Complètement. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père était professeur aussi dans le même lycée que le mien. Et j'avais déjà été chahuté par ses élèves, qui était plus vieux que moi encore. Et j'avais répondu par la violence juste une année avant le drame, si on peut dire. Ça m'avait valu quand même un avertissement du proviseur. Moi, j'étais pas du tout à aller chercher les autres, hein, mais justement, il y avait des élèves de BTS, ils étaient à peu près une dizaine, et on se retrouvait toutes les semaines, régulièrement, plusieurs jours par semaine, sous une verrière, et on était à un étage, et on était séparés par cette verrière, et souvent je faisais l'objet de moqueries, et c'était incessant. Et un jour,
au réfectoire,
ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé, en fait la distance elle a été rompue parce qu'on s'est retrouvé au réfectoire. Donc c'était un lycée de 2200 élèves, il y avait à peu près peut-être entre 500-700 élèves au réfectoire à ce moment-là. Et en fait, ils s'assoient. Moi, j'étais déjà assis avec deux camarades. Et en fait, ce groupe de 10 viennent s'asseoir. Et il y en a qui commencent un petit peu à me chahuter. Il y en a un qui dit « Je ne veux pas manger en face de cette gueule de con ». Voilà, les termes sont restés.
Voilà, « Je ne veux pas manger en face de cette gueule de con ». Cette gueule de con, donc, dans ses mots à lui, c'était vous. On va se retrouver dans un instant, parce que vous venez bien de nous expliquer aussi dans quel climat intérieur vous étiez. Un climat orageux, un climat violent contre l'injustice. Et vous la subissez ce jour-là, et puis l'humiliation publique aussi. Et vous allez nous expliquer dans un instant comment les choses ont dérapé. À tout de suite sur RTL, à tout à l'heure.
Flavie Flamand sur RTL.
Aldi. Place aux nouveaux consommateurs.
Avant d'écouter votre podcast, nous avons quelque chose à vous dire. Chez Aldi, nous nous engageons à vous proposer chaque jour toujours plus de produits plus respectueux de l'environnement et des producteurs. Et ça devrait vous plaire. Retrouvez nos engagements sur aldi.fr. Et maintenant, place à votre podcast.
Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Aujourd'hui, jusqu'à 15h30, on parle de nos erreurs de jeunesse. Elles sont nécessaires pour grandir, nous écrit Déborah. Marc, on peut tous faire des erreurs de jeunesse, qu'elles soient volontaires ou non. Ça peut aller de la simple gaffe à des choses beaucoup plus graves. Mais ces fameuses erreurs de jeunesse m'ont appris à mieux me connaître, à connaître mes limites et surtout à porter un regard différent sur l'existence. Dans un instant, Marianne Chaillant, qui est professeure de philosophie, et Daniel Marcelli, qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, nous rejoindront. Mais nous sommes toujours avec Aton. Aton, vous venez d'entendre les mots de Marc qui parle effectivement de la simple gaffe à des choses beaucoup plus graves. Avec le recul, ce qui s'est passé ce jour-là dans le réfectoire avec cet élève de BTS qui s'assied en face de vous et qui dit « je ne veux pas manger en face de cette gueule de con », est-ce que lorsque vous regardez, vous revenez sur cette journée, vous vous dites qu'effectivement c'était une erreur de jeunesse grave ?
Ah oui, complètement. Et puis surtout que bon, on a eu quelque part dans notre malheur, on a eu de la chance parce que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique à savoir qu'il est passé à travers une vitre quand même.
Bon, alors racontez-nous, parce que vous entendez ça, vous avez en vous un orage, vous êtes humilié devant tout le monde et vous avez en plus cette passion hein, pour les sports de combat que vous pratiquez et vous sentez en vous en tout cas une violence qui ne demande qu'à se déployer. On est d'accord.
Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Ouais. C'est vrai que le fait qu'il parle comme ça devant tout le monde, c'était l'humiliation totale pour moi. Et pour moi, j'étais en capacité de mettre un terme à ça, physiquement. Et je me suis levé, je suis allé les voir et je leur ai demandé naïvement hein, à ce qu'ils s'excusent. Et bien sûr, quand un jeune de 17 ans s'adresse à des BTS, en l'occurrence Mathieu, ce que j'avais cité dans mon premier livre, Mathieu avait 23 ans, bon, pour lui, c'était pas le plus virulent hein, dans les insultes, hein, mais c'était celui que les autres voilà, montaient un petit peu, ils le chauffaient, pour que bah, justement il me rassoie et qu'il, voilà, et qu'il mette un terme à tout ça. Donc Mathieu s'est levé, Mathieu m'a pris à la gorge, et m'a demandé de me rasseoir. Et il m'a raccompagné, en fait. Et on était entre les tables et les chaises. Et en me raccompagnant, derrière moi, j'avais une vitre. Une vitre avec... c'était très, très basse. Et j'ai senti que bah, là, ça montait en moi. Je me suis dit, de toute façon, il y a deux solutions. Soit je me laisse me faire rasseoir et raccompagner. Et auquel cas, je crois que je me cacherai à vie. Parce que pour moi, c'était ça à 17 ans. Hein. Faut remettre dans le contexte. Hein. Je suis adolescent. Pour moi, c'est une humiliation qui pourrait me poursuivre à vie presque. Et si je réagis, qu'est-ce que je fais? Et je réagis avec mes moyens. Et c'est-à-dire, je fais appel à ma capacité de boxe. À l'époque, je préparais les championnats de France de full contact. Donc, je m'entraînais tous les jours. J'ai saisi Mathieu par le col et je lui ai demandé de me lâcher et je lui ai dit qu'il allait regretter son geste s'il ne me lâchait pas. Il a souri, tous ses camarades ont souri et moi les miens m'ont dit arrête, stop là parce que eux sentaient que vraiment j'étais en train de basculer. Et en fait, quand j'étais presque dos à la vitre, je l'ai retourné, on a fait un 180, hein. C'est lui qui s'est retrouvé dos à la vitre, je lui ai mis un coup de poing au visage, il a été projeté, donc la vitre a volé en éclats, je l'ai récupéré, en le récupérant en fait, il a été scalpé sur à peu près, on va dire un cercle de presque 10 cm de diamètre, donc ce qui est énorme, et j'ai continué à frapper en fait. Et c'est mon père qui mangeait à côté, donc au réfectoire, qui s'est levé, qui m'a vu et qui est venu me taper sur l'épaule et qui m'a dit arrête. Et là, Mathieu était en sang. J'en avais plein le visage, il y avait du sang absolument partout, parce que la tête, ça saigne énormément. Et beaucoup de gens ont été choqués de cette violence-là.
Vous aussi?
Pardon?
Vous aussi, sur le moment, vous avez été choqué par votre propre violence et par la situation aussi?
Pour être très honnête, non. Non, et d'ailleurs, j'en avais parlé à MC. Pour moi, j'avais fait mes preuves. J'avais mis un terme à des années de harcèlement, à des années où on me défiait. Et là, en fait, pour moi, j'avais montré ce que j'étais capable de faire. Je pense que j'étais pas complètement lucide sur l'acte. Je vous avais vu que je me retrouvais avec le scalp dans les mains quand même, parce qu'il avait les cheveux longs, et j'avais ce scalp dans les mains. Et lui en était dépourvu, hein. Donc c'était quand même très, très violent, hein. Au niveau image, c'était chaud.
Les pompiers sont arrivés.
Les pompiers sont arrivés. Ça a duré un peu. Ils m'ont dit que là, c'était très très tendu pour Mathieu, parce qu'il avait perdu énormément de sang et ils étaient très inquiets. Alors je ne sais pas avec le recul s'ils m'ont dit ça pour m'inquiéter, pour vraiment, parce qu'ils sentaient que peut-être que j'en avais pas spécialement conscience, mais ils m'ont dit là, il risque l'arrêt cardiaque.
Là,
j'étais très mal parce qu'en fait, je voulais cette démonstration, mais je la voulais pas à ce point-là. Je voulais pas, j'acceptais pas les conséquences, en fait. Autant j'acceptais la confrontation, mais les conséquences de cette confrontation, je crois que j'étais pas prêt à les assumer.
Votre colère, votre rage, on peut parler de rage à ce moment-là?
Oui, complètement.
Votre rage est donc redescendue lorsque l'on vous a exposé la situation et la gravité de la situation. Quel comportement votre père a-t-il eu puisqu'il était là?
Alors, mon père a été extrêmement présent. Et d'ailleurs, je le remercie. Et d'ailleurs, je lui passe le bonjour parce qu'il vous écoute régulièrement. Oui. Donc, voilà. Mais non, il a eu un comportement que je pense que j'aurais avec mes enfants. J'espère. Il a été très présent. Et il a essayé d'apaiser les choses. Alors, il les a pas minimisées. Il m'a fait comprendre que c'était extrêmement grave et qu'il fallait qu'on gère maintenant et qu'il fallait assumer. Donc, il y a eu conseil de discipline. Ça a été quand même assez compliqué, hein. Mais il m'a accompagné. On était même habillés ce jour-là, pareil, pour montrer un peu, si vous voulez, qu'on faisait corps, on faisait bloc, parce que le proviseur, lui, par contre, était très, très remonté contre moi et lui voulait me virer définitivement du lycée.
Ouais.
Voire même me placer dans une école spécialisée pour personnes un peu, disons, instables.
Bon, on va se retrouver dans un instant, Aton. On va parler des conséquences de ça. On va prendre des nouvelles de Mathieu.
Ouais.
Évidemment, parler des conséquences sur vous, le comportement des parents de Mathieu à votre endroit et l'enseignement évidemment que vous en avez tiré. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Sur RTL
jusqu'à 15h30.
On est pendu à vos lèvres, Aton, hein, parce qu'évidemment, ce qui vous est arrivé et ce qui est arrivé à Mathieu aussi illustre bien les erreurs de jeunesse qui peuvent tourner au drame. Aton, pour ceux qui nous rejoignent, on parle donc de ces fameuses erreurs de jeunesse qui peuvent laisser des traces indélébiles jusqu'à 15h30 en direct sur RTL. Vous aviez 17 ans lorsque vous vous êtes battu avec un homme de 23 ans qui était en BTS alors que vous étiez au lycée. Vous étiez vous-même victime de harcèlement depuis de nombreuses années, passionné par les sports de combat et les films d'action. Vous sentiez en vous une certaine violence à laquelle vous preniez goût. Ce garçon est venu vous provoquer. Vous vous êtes battu, vous avez voulu l'arrêter. Il a traversé une vitre et à la faveur, si je puis dire, malheureuse d'un mouvement, il est tombé sur une vitre biseautée et a été scalpé. À ce moment-là, on vous a dit que ses jours étaient en danger parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. C'est cette phrase-là, en vous disant il risque de faire un arrêt cardiaque qui vous a fait redescendre de votre rage, de votre colère et peut-être aussi de votre soif de vengeance. On a parlé de la vengeance hier sur RTL. Il y avait peut-être aussi cette idée à travers les coups de mettre un terme à du harcèlement. Alors j'imagine que ce Mathieu a été pris en charge tout de suite. Quelles ont été les conséquences de cette altercation sur Mathieu, ses conséquences physiques, on va prendre de ses nouvelles, et l'attitude de sa famille?
Alors, son père a déposé plainte le soir même à mon encontre, ce que je peux comprendre largement. Mmh. Et en ce qui concerne Mathieu, il a été pris en charge donc à l'hôpital de Saintes. Ils avaient tenté de faire une greffe de son scalp qui avait été récupéré. Mmh. La greffe n'a pas tenu et en fait, il a fait 2 à 3 années de chirurgie esthétique pour pouvoir arriver à avoir un visage, un crâne qui avec une grosse cicatrice, mais pour arriver au terme justement des conséquences de cet acte-là. Ça a été 3 ans de galère pour lui.
Alors 3 ans de galère, comme vous le dites. Son père a porté plainte. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là, Aton?
Alors moi j'étais ça peut paraître complètement fou, mais quelque part un peu satisfait du fait de je me suis dit là, à partir de maintenant c'est terminé, on ne m'embêtera plus. Et en même temps, j'étais dégoûté d'en arriver jusque-là. Voilà, j'étais peiné d'avoir été obligé d'avoir été aussi violent.
Est-ce qu'il y a eu procès?
Alors non, il n'y a pas eu procès parce qu'en fait, ses parents ont rencontré les miens le soir même. Ouais. Et après discussion, les parents ont bien vu que, et Mathieu lui-même en fait, a reconnu qu'il m'avait cherché, qu'il m'avait provoqué et qu'il avait été surpris de ma réaction. Il s'attendait à me rasseoir et en fin de compte à m'humilier devant tout le monde et que j'allais me taire, quoi. Et il a été très surpris à partir du moment où je l'ai pris par le col et que je l'ai retourné. Il a dit la force, il ne s'attendait pas à une telle force. Et c'est vrai que la force, quand on est énervé, quand on est en rage, elle est décuplée. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Et il a dit qu'il prenait ses torts. Et le père a dit je retire la plainte.
Alors au-delà de la satisfaction de vous dire sur le moment bon c'est bon, on ne cherchera plus des noises, parce qu'effectivement vous aviez subi, pour ceux qui arriveraient en cours de route, des années de harcèlement, au-delà de cette satisfaction, est-ce que vous êtes resté dans l'établissement, est-ce que vous avez été envoyé dans un établissement pour personnalité instable, comme vous le disiez, sur les conseils du directeur?
Alors non, et je vais vous dire heureusement, parce qu'en fait, j'ai connu des établissements comme ça par la suite, où j'étais formateur pour justement prévenir de la violence auprès du personnel soignant. Et je pense que si j'avais été dans un établissement comme celui-ci, j'aurais basculé, mais complètement. Je suis resté dans l'établissement, mais ça a été extrêmement dur pour moi, parce qu'en fait, je vais vous dire, il me restait un an et demi à faire dans l'établissement, et je les ai fait avec l'interdiction de retourner au réfectoire, c'est-à-dire que je laissais mes camarades, mes amis aller manger, et moi je mangeais des sandwichs à l'extérieur pendant un an et demi. Je n'avais pas le droit d'aller en récréation, donc avec les autres. Les professeurs avaient pour consigne de m'ouvrir la salle du cours suivant la récréation, et j'attendais en fait la classe dans la salle. Et j'ai été stigmatisé comme ça pendant un an et demi. J'étais la brute et ça a eu beaucoup de conséquences sur mon comportement et sur ma construction, en fait.
Un psy qui vous a dit quelque chose qui a changé le cours des choses aussi pour vous.
Oui, alors quand j'ai rencontré deux psys, le premier, en fait, je lui avais expliqué que j'ai complètement pété les plombs, que j'ai vu rouge et la psy, en l'occurrence, me dit, effectivement, vous n'avez pas eu la maîtrise totale de vos gestes et vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous avez fait. Et j'étais plutôt une victime pour elle. Et le deuxième, en fait, quand je lui ai raconté, il m'a dit que non, j'étais très, très lucide, et il se basait sur la déclaration que j'avais fait aux assurances pratiquement 15 minutes après avoir eu l'altercation, qui était en 5 lignes, sans faute. Et en fait, à la force de discuter avec lui, il pose un diagnostic. Il me dit, écoute, il dit, pour moi, tu es un psychopathe. Tu n'as rien ressenti de ce que tu as fait. Tu en as éprouvé du plaisir. Et ça porte un nom, voilà, c'est une pathologie, c'est tu es psychopathe. Donc il me dit, tu sembles être un garçon intelligent. Donc je ne vais pas t'accabler au conseil de discipline. Je ne vais rien dire. Tu vas continuer à dire que tu as vu rouge, que tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu as fait. Mais il dit, je veux que tu saches que cette violence-là que tu as en toi, elle est très dangereuse. Et attention pour la suite. Mais je vais te faire confiance et je vais te laisser une seconde chance.
Dis donc, vous avez eu de la chance de rencontrer un homme comme ça. J'imagine que vous avez pensé à lui lorsque vous avez intégré le GIGN, quelques années plus tard.
Oui, alors c'est ressorti, bien sûr, des dossiers comme ça restent. Et je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai mis deux ans d'enquête de moralité avant de rejoindre la gendarmerie. J'étais surveillé, puis en plus de ça, je travaillais en boîte de nuit, donc forcément la violence m'avait un peu suivi. Et puis ensuite, pour les tests psychologiques GIGN, j'ai dû raconter cette histoire. Et là encore, on m'a dit que attention, qu'il fallait canaliser cette violence. Et j'avais des instructeurs qui étaient très humains, qui m'avaient bien évalué, bien jaugé, et qui étaient convaincus que je pouvais faire carrière au GIGN. Et je pense que je leur ai donné raison, parce que j'ai fait 15 années assez intenses, mais avec une violence canalisée, proportionnée. Il n'y a jamais eu de coup d'éclat en ma défaveur.
Vous voulez bien rester avec nous ?
Avec
maintenant
plaisir.
Qu'on vous a entendu et que vous nous avez parlé de ça, on va parler peut-être aussi très rapidement après de vos regrets. Je vais vous demander si vous avez aussi pris des nouvelles de Mathieu, parce que je crois que vous allez bientôt vous retrouver. Mais pour l'heure, on fait une pause, on passe à l'information, ensuite on accueille nos invités et on parle de nos erreurs de jeunesse. Yann Boucherie va arriver dans ce studio, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
On parle de vous à tonnes, et évidemment des réactions qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Antoine, tiens, nous parle aussi de ses erreurs de jeunesse. Il dit « Bah oui, ça a parfois détruit ma vie, ça l'a reconstruite aussi à la fois. Mais au final, cette erreur a permis que je devienne qui je suis. Et cela m'a permis aussi de devenir un homme. » Vous venez de nous raconter à tonnes pendant cette première demi-heure. Qualifier ça d'une erreur de jeunesse, en tout cas cette violence qui était en vous et qui vous a mené un jour à lever la main sur un homme, et avec un geste qui vous a très certainement échappé, puisque cet homme qui vous agressait alors que vous aviez 17 ans a été scalpé par une vitre biseautée. Dernière question avant qu'on accueille nos invités, vous allez bientôt revoir Mathieu, hein ?
Oui, alors Mathieu, en fait, est revenu vers moi suite à la sortie de mon premier livre. J'avais fait.
Mais vous ne l'aviez pas fait, vous, auparavant ? Pardonnez-moi, vous n'aviez pas cherché à le joindre ?
Non, je n'avais pas cherché à le joindre. C'était assez compliqué pour moi. J'y pensais. Il a toujours été dans mes pensées, sincèrement. Je me suis toujours demandé comment il avait évolué. Est-ce que ça ne l'avait pas... Ça n'avait pas... Ça n'avait pas... peiné, enfin je veux dire, voilà, physiquement, ce qu'il avait subi, c'était quand même extrêmement grave, et comment il avait vécu, moi je me suis toujours posé la question. Mais c'est lui qui est revenu vers moi, en fait, à la suite de mon premier livre et d'une interview, et on a eu une explication sur Messenger, et ça a été très intéressant pour lui, pour moi, je pense, enfin pour moi beaucoup, parce qu'en fait, il me dit comme ça qu'il ne m'en veut pas et qu'il a beaucoup appris, que cette mauvaise expérience lui a énormément appris. Et en fait, il m'a raconté un petit peu ce qui s'est passé après, parce que moi, j'avais ordre de ne pas l'approcher. Hein. J'étais l'individu dangereux, j'étais la brute épaisse, et il fallait absolument pas que je l'approche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était à l'hôpital, les 10 camarades qui étaient avec lui, enfin les 9 autres, sont allés le voir à l'hôpital et se sont moqués de lui en disant qu'il avait pris une raclée d'un petit, et que c'était la honte sur lui. Et voilà. Et il a très très mal vécu l'expérience. Quoi. Ça a été c'est pour lui. Mais il a pris conscience de beaucoup de choses aussi.
Vous avez des regrets ?
Alors, je regrette les conséquences, bien sûr. Maintenant, le geste est ce qu'il est. Le geste, je pense que si je ne l'avais pas fait, je pense que c'est moi qui aurait été détruit. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est très compliqué, hein. Je sais que je peux être jugé, j'ai été jugé, hein, par beaucoup de monde. Ça peut paraître extrêmement dur de dire que je ne regrette pas l'acte de défense. Maintenant, je regrette les conséquences, bien sûr.
Je comprends. Daniel Marcelli, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci pour votre patience. Vous avez entendu Daniel Marcelli. Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, président de la Société française de psychiatrie. Alors, quand on écoute le témoignage d'Aton, waouh !
Oui, ça fait beaucoup. Hein. Je tiens à remercier Aton, parce que ce genre de témoignage est extrêmement important, riche et lourd d'enseignement pour tout le monde. On pourrait en parler des heures. Alors, la première chose que je voudrais dire à Aton, je suis psychiatre, je dirais que pour moi, c'est pas une erreur. L'erreur, c'est d'avoir laissé cet adolescent être humilié pendant des années sans que les adultes n'aient réagi et n'aient cherché à résoudre ce problème. L'humiliation, c'est un paquet de violences qui s'accumule sur les épaules. Et un jour ou l'autre, ça déborde. Pour Aton, ça a débordé à 17 ans. Et s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il aurait été cassé psychologiquement ou qu'il aurait été d'une violence plus destructrice ultérieurement. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur. D'ailleurs, il le dit bien, hein, quand il est pris par le coup et il dit « lâche-moi », on voit bien qu'il hésite, qu'il a un temps de réflexion. C'est ça qui est essentiel. Alors, pour élargir les choses, Ce qu'on voit bien chez Aton, c'est que cet acte, avec surtout la différence, il ne répudie pas l'acte qu'il a commis. Ce qui l'inquiète et ce qui l'ennuie, c'est les conséquences de son acte. Et là, il est très ennuyé, très gêné, il a raison. Mais l'acte, il dit, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai posé, c'est moi qui assume cet acte. Et là, le problème de l'adolescence et des jeunes, quand ils font des erreurs, bien que je considère que ce ne soit pas vraiment une erreur qu'il a fait à Aton. Mais quand les jeunes font une erreur, il y a deux types de jeunes. Il y a ceux qui disent « c'est pas moi, c'est de la faute des autres ». Et il y a ceux qui disent « c'est moi qui ai fait ça ». Et Aton, il a toujours dit « c'est moi qui ai fait ça ». Il n'a jamais dit complètement « c'est la faute des autres ». Il a dit « j'ai été humilié, j'en pouvais plus, j'avais besoin de me libérer de cette humiliation ». Bon, ce grand est arrivé, c'est tombé sur lui. Mais il assume ça. Beaucoup de jeunes externalisent l'origine de leur bêtise ou leur erreur, c'est de la faute des profs, c'est de la faute d'un tel. Et ceux-là, souvent, ils ont bien du mal à apprendre de l'expérience. On apprend de l'expérience quand on est, excusez-moi, quand on est soi-même, on se sent soi-même responsable de ses actes.
Et c'est effectivement le cas d'Aton. Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Flavie.
Bienvenue sur RTL, vous êtes professeure de philosophie, écrivaine. Quand vous entendez le témoignage d'Aton, une réaction avant qu'on dise au revoir à Aton ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, ce qui touche l'enseignante que je suis, qui enseigne en lycée, c'est évidemment toute cette problématique du harcèlement scolaire. Je me dis qu'on peut en profiter pour rappeler à vos auditeurs s'ils sont victimes de harcèlement ou s'ils sont témoins de harcèlement, qu'il y a un numéro gratuit, le 30-20, qui permet la prise en charge de ces situations de harcèlement entre élèves, et le 30-18 quand il s'agit de cyberharcèlement. C'est un fléau qui est malheureusement quotidien, mais qui n'en est pas moins extraordinairement grave pour autant et qui s'est augmenté avec les nouvelles technologies.
Alors, le harcèlement et le cyberharcèlement, d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine sur RTL. On va se retrouver, Marianne, Daniel, dans un instant sur RTL. Aton, je vous remercie d'avoir passé autant de temps avec nous parce qu'effectivement, je pense que c'était important et très éclairant. Je rappelle donc votre livre chez Nimrod, Feral, cette force qui existe en nous. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore prochainement. Merci à vous, Aton.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce partage. Merci.
À bientôt sur RTL. On se retrouve tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On parle de nos erreurs de jeunesse. Le témoignage d'Aton était très éclairant il y a un instant. Marianne Chaillant, je le disais, vous êtes professeure de philosophie. Est-ce qu'effectivement, les erreurs de jeunesse sont quelque part formatrices? Est-ce qu'il est normal que pendant la jeunesse, on ait besoin de frayer avec le danger?
Pendant la jeunesse, mais peut-être même après, Flavie, non?
Oui, c'est vrai, mais comme là, on parle de nos erreurs de jeunesse, est-ce qu'effectivement... Parce que c'est peut-être parfois ces erreurs de jeunesse qui nous permettent, à un moment donné, d'emprunter un chemin plus central, vous voyez ce que je veux dire? De ne pas aller taper systématiquement pendant toute notre existence dans les limites.
Oui, alors, les erreurs de jeunesse, ça peut être des choses extrêmement lourdes de conséquences, comme le témoignage qu'on vient d'entendre. Ça peut être des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus jolies. Je lisais parmi vos auditeurs les commentaires sur Internet. Certains parlent d'avoir volé des bonbons à la boulangerie. Il y a un spectre très large de ce que sont les erreurs de jeunesse. Et du coup, au regard de ce qu'elles sont, elles peuvent avoir un impact différent, mais je pense que effectivement les erreurs sont des étapes nécessaires dans le fait de trouver à un moment donné, de se trouver. C'est un chemin. Dans l'erreur, il y a errance. Je ne sais pas si vous l'entendez vous aussi. Et je crois que c'est important d'errer pour se trouver un jour. Donc, est-ce que le terme d'erreur convient? Ce sont des expériences. Elles sont formatrices et elles font ce que nous sommes.
Alors, Daniel Marcelli, je vais vous lire des messages qu'on a reçus, parce que effectivement, il y a les petites erreurs de jeunesse, c'est-à-dire le vol des bonbons. À propos de vol, d'ailleurs, on a un message d'Audrey. On était une bande de copines d'un milieu plutôt bourgeois, passionné par les rouges à lèvres et les bijoux fantaisie. On avait monté un petit trafic et plus ça marchait, plus on prenait des risques. Je vous raconte pas la tête de nos parents quand ils sont venus nous chercher au poste. La honte de ma vie. Mon père m'a fait bosser gratuitement pour l'enseigne pendant tout un été. Mais il est aussi des erreurs qui sont plus inquiétantes, je dirais. Et des comportements à risque. Et c'est ça qui m'intéresse aussi aujourd'hui. Romaric nous a envoyé un mail. À 19 ans, pour épater la galerie, alors que j'étais alcoolisée, j'ai décidé de faire le funambule un soir de fête sur un pont lyonnais. Heureusement, il ne m'est rien arrivé. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai affolé ma petite amie de l'époque qui était mon premier amour. Je n'en étais pas à mon premier comportement dangereux. Elle a eu tellement peur qu'elle m'a quitté quelques jours plus tard. J'ai mis du temps à comprendre à quel point ça pouvait être idiot. Je suis aujourd'hui père de deux jeunes enfants et les imaginer faire la même chose me glace le sang. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on se sent immortel quand on est jeune? Est-ce qu'on a besoin d'aller tutoyer le risque et voire tutoyer la mort? Est-ce qu'on s'en rend compte de ça?
Il y a chez les adolescents un minimum de sentiment d'invulnérabilité. Ils ont la vie devant eux et ils se sentent relativement invulnérables. Je fais exprès de dire relativement parce que le problème, c'est où on met le curseur. Il y a des jeunes qui sont dans cette espèce de sentiment de toute puissance avec la quasi-conviction que rien ne peut leur arriver. Et des jeunes qui sont modérément comme ça, qui se sentent invulnérables mais qui ont quand même une capacité à se retenir. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'adolescence, c'est quand même l'âge de l'expérimentation, l'âge de la découverte. Alors la découverte aussi bien au plan de son propre corps, de ses capacités, de ce qu'on est capable de faire, et de la société, jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel point en mobylette ou en fumant ceci, cela, etc. Donc l'expérimentation, moi je dis souvent que un adolescent qui de toute sa vie n'aurait jamais d'adolescent entre 12-13 ans et 16-17 ans n'aurait jamais pris aucun risque, n'aurait fait aucune erreur, risquerait fort d'être un adulte passablement rabougri et passablement étriqué. je suis convaincu que vous, Flavie, vous avez fait quelques petites erreurs dans votre adolescence. Et c'est peut-être ça qui vous a permis d'être ce que vous êtes. Donc, on est dans une société où aujourd'hui, il ne faudrait rien faire, tout le monde devrait être élevé dans du coton, etc. etc. Voilà, c'est ça le problème. Alors, et le problème, c'est quel enseignement on tire de ces erreurs. Je peux me permettre de donner un petit exemple.
Allez-y, après je vous laisse.
Stupide. Tous les enfants apprennent à marcher. Et c'est intéressant parce qu'on dit apprennent à marcher. Mmh. Or, en moyenne, avant de savoir marcher, les enfants, ils tombent 1000 à 2000 fois sur les fesses. Ils ne viendraient à l'idée à aucun parent de dire « t'as fait une erreur, reste sur tes fesses et ne recommence pas ». D'ailleurs, si les enseignants prenaient conscience de ça et ne pas confondre l'erreur et la faute.
J'entends.
Voilà. Ça, et donc, je pense fondamentalement que l'erreur, on apprend de ses erreurs. On n'apprend jamais quand on réussit. On ne sait pas pourquoi on réussit. On peut comprendre pourquoi on échoue.
Alors, on est d'accord. Certains nous parlent de conduite. Laurent, qui, malgré sa consommation d'alcool, tous les week-ends, sortait avec ses copains. Nous avions l'impression de gérer, de maîtriser. Un jour, alors que j'étais au volant, j'ai percuté un panneau de signalisation. Mmh. Donc là, on peut dire, voilà. L'un de mes copains a eu la clavicule cassée. Je m'en suis sortie avec un gros mal de crâne. Mes autres potes ont eu plus peur que moi. Quels imbéciles nous étions. Quelle chance nous avons eue. Je continue quand même de culpabiliser aujourd'hui. Et Steph, on était une bande d'amis unis par une erreur de jeunesse. On s'ennuyait tellement dans notre petit bled du Limousin qu'on a décidé de faire les cons avec les mômes. On faisait des concours de vitesse et d'acrobatie sur une grande ligne droite au milieu des champs. L'un de nos potes a un jour piqué la grosse moto de son frère aîné. Il a chuté en faisant une roue arrière. Une voiture est passée par là. Je vous laisse imaginer la suite. Aujourd'hui, on y pense à chaque fois que l'on pousse son fauteuil roulant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est, dans la peur, Daniel Marcelli,
oui,
en tant que parent, de se dire en fait, on est passé parfois à côté du drame.
Et parfois,
on l'a eu le drame.
On l'a eu. Alors là, il y a deux exemples. Un, les consommations de produits. Deux, les objets tels que la grosse moto par rapport au petit vélo. Oui. Effectivement, quand on fait du cyclo-cross dans un truc adapté, c'est pas très grave.
Oui, mais ça, sont des erreurs de jeunesse.
Les genoux. Oui. Mais quand en revanche, on pique la moto, la grosse moto de son grand frère, et là, c'est ça le problème. Mais la conduite en elle-même, et en plus il y a la caisse de résonance du groupe. Là, les trois exemples que vous donnez, il y a toujours la caisse de résonance du groupe.
La bande d'amis. Ouais, je comprends.
Et ce sont des garçons. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait faire toute une séance sur la différence des erreurs entre les filles et les garçons. C'est pas les mêmes genres. Les garçons, ils sont toujours devant la prestance et par rapport au groupe. Et il faut qu'ils en montrent, quoi, voilà. Mmh. Et en particulier, à l'opposé, Ethan, quand il était humilié devant le groupe, et il a assisté, il y avait 700 personnes dans le réfectoire, l'humiliation devant le groupe est absolument intolérable pour des jeunes adolescents. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont en jeu.
On va se retrouver dans un instant des messages qui nous sont arrivés aussi de la part de nos auditeurs et des questions. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Marianne Chaillan, vous êtes prof de philo. Alors quand on parle aujourd'hui des erreurs de jeunesse, on se dit qu'à un moment donné, c'est le sens de l'existence, voire la fureur de vivre qu'on est en train d'interroger.
C'est vrai. Et c'est vrai que la fureur de vivre qui peut animer la jeunesse, et j'espère aussi un peu la vieillesse, c'est cette envie de tout goûter au risque du mauvais goût, de tout expérimenter au risque de la mauvaise expérience. Et dans ce cas-là, effectivement, les erreurs de jeunesse, on n'a pas à les regretter parce qu'elles participent de cet appétit vital, de cet élan vital. Mmh. Et au fond, elles font aussi partie des saveurs, bon, un peu douloureuses que l'existence peut nous offrir.
Mais est-ce qu'il faut tutoyer la mort parfois, justement, pour goûter la saveur de la vie ?
Je le crains, pas simplement en se mettant en danger, mais effectivement, en faisant l'expérience du deuil dans notre entourage, je pense qu'effectivement, ça peut nous réveiller sur l'importance de la vie. Oui.
Et parfois aussi, l'importance de la vie, on la réalise, Daniel Marcelli, quand on voit des copains comme celui de Steph, qui aujourd'hui est en fauteuil roulant.
Malheureusement, parfois, effectivement, il faut toucher le fond, comme on dit.
Mais pourquoi
parfois
les ados n'entendent pas ce qu'on leur dit ?
Parce que c'est difficile. L'expérience des autres ne sert qu'à moitié. Voilà. Chacun a besoin d'expérimenter, de faire ses propres expériences. D'ailleurs, je vous signale qu'une grande partie de la pédagogie contemporaine consiste à permettre aux jeunes de faire ses expériences et d'expérimenter par lui-même. Donc c'est compliqué parce qu'à la fois, voilà ce qu'on leur dit, et en même temps, d'un seul coup, il faudrait que tout le monde écoute les consignes de prudence, etc. Donc c'est compliqué et chacun a besoin d'une part de mélange de liberté et de flirter avec la limite. Voilà, flirter avec la limite. Alors c'est l'importance de ce flirt. Et il y a un élément essentiel, peut-être qu'on n'a pas assez dit, c'est la répétition. Quand on répète toujours les mêmes choses, là c'est qu'on n'apprend pas de l'expérience. Et quand la répétition s'aggrave, là c'est vraiment, on n'entend pas ce que la réalité nous dit. Quand en revanche on fait une bêtise ou une erreur, une deuxième éventuellement un peu moins grave, et là on en tire les conséquences, là on apprend de ces erreurs. L'expérience m'a appris aussi, hélas, que beaucoup de jeunes apprennent de leurs erreurs, mais qu'il y a un petit nombre qui ont beaucoup de mal à entendre jusqu'à ce que quelque chose de très grave ou de fatal survienne.
Rapidement, je voudrais que l'on réponde à Philippe, pardon, mais à chaque fois que je reproche à mon fils de boire tous les week-ends avec les risques de comportement qui vont avec, il me rétorque que je l'ai fait moi aussi. Comment lui faire comprendre que j'ai eu un bol dingue qu'il n'aura peut-être pas? Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Parce qu'on a Charlotte qui dit, bah, finalement, le mieux, c'est de pas leur en parler, de pas parler de nos propres erreurs pour ne pas donner à nos enfants l'envie d'en faire.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, je pense qu'il ne faut pas être tout le temps en train de dire « Moi, j'ai fait plein d'erreurs, mais je ne veux pas que tu les fasses, toi. » Parce que là, c'est d'une certaine manière exciter le jeune à montrer qu'il est capable aussi, comme son parent, de le faire. Donc ça, à la limite, on a fait des erreurs, on les garde pour soi. Et quand son jeune a fait des erreurs, une erreur, on dit bah, « Moi aussi, ça m'est arrivé. » Je crois que le rôle des parents, c'est de veiller à ce que, je dirais, l'environnement. Par exemple, il sort en boîte, je dirais, on va le chercher. Alors, à 18-20 ans, c'est peut-être plus compliqué. On lui dit, tu dors chez... On lui donne des stratégies alternatives et des stratégies de précaution. Je crois que ça, c'est fondamental. Plutôt que d'essayer d'avoir... Dire, reste ici, sors pas. Là, sinon, un jeune, il passe par la fenêtre.
J'ai bien compris. Et ça s'appelle donc l'école buissonnière. Et ça s'appelle faire le mur, ce qui peut être dangereux aussi. Bon, Marianne Chaillant, je ne sais pas si vous avez fait le mur, mais en tout cas, je vous remercie de ne pas l'avoir fait aujourd'hui ou en tout cas pour venir sur cette émission. Je conseille votre livre « In Pop We Trust » aux éditions des Équateurs. Merci Marianne et à bientôt. Daniel Marcelli, votre dernier livre, enfin le livre que l'on conseille en tout cas aujourd'hui, c'est « Moi-je, de l'éducation à l'individualisme » aux éditions Albin Michel.
Je me permets de vous dire, comme il y avait Hatton qui a parlé de rage, j'ai aussi écrit ce livre « Avoir la rage ». Du besoin de détruire à l'envie de construire, justement, qui est tout à fait centré autour de ce problème.
Eh bien, merci beaucoup d'en avoir parlé. Daniel, Marcelli, merci à vous deux et puis merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'est l'heure de nous souhaiter un très bon week-end. RTL vous accompagnera et je serai demain matin l'ami de votre petit déjeuner. Avec nous, voilà bien, dès 9h15. On parlera des arnaques, des paiements en ligne et du bio dans nos jardins avec une enquête de 60 millions de consommateurs. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Lundi, on repart pour une semaine de réflexion avec En effet pour s'entendre. D'ici là, profitez, mais restez prudents. Bon week-end sur RTL.
Bonjour, c'est Cindy Hubert.
Ils racontent leur 13 novembre.
Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast Le procès du siècle. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.